Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 7 novembre 2020. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakaoui. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. Encore du sang sur les mains de Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. Jean-Pierre Bokourou, un jeune rabatteur que Kazungu avait fait arrêter il y a près de 2 semaines, a été retrouvé mort, égorgé, les bras ligotés. Et puis, Listebou doit régulariser 168 enquêteurs. Ces derniers viennent de passer plus de 5 mois sans être payés une partie de leur dû après leur travail. Il n'y a pas d'eau potable à Gatumba, une carence qui cause la panique au sein de la population qui craint une propagation de maladies démentielles. Enfin, les crimes contre les journalistes au Burundi et leur impunité, une longue histoire comme nous le verrons dans le mini-magazine au cœur de la société. Aux manettes, Théodomir Manilambona, à toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Jean-Pierre Bokourou, arrêté par des éléments du service national de renseignement à Kamenge, il y a 2 semaines, a été retrouvé mort. Après 10 jours d'incertitude, Jean-Pierre Bokourou, un jeune rabatteur au parking d'Ikotebou, en mairie de Bujumbura, sa famille a reçu la photo de son cadavre, égorgé, les bras ligotés. Pacifique Nina Azwe, coordonnateur de la campagne Ndondeza, démontre dans cet assassinat la main visible de Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu, connu pour être souvent cité dans beaucoup de crimes de ce genre. On écoute Pacifique Nazé.
Soir du 24 octobre 2020, Jean-Pierre Bokourou, un rabatteur au parking communément appelé Kotebou à Bujumbura, est sorti avec des collègues rabatteurs. Ils sont allés partager un verre dans un bar à Kamenge, quartier d'Ituro, un bar appelé chez Mama Fina. Parmi ses collègues, il y avait un certain Wabiro. Wabiro qui non seulement est un rabatteur, mais aussi un informateur de Joseph Mathias Nyonzima, officier du service national de renseignement, souvent cité dans beaucoup de crimes. Au sortir de ce bar, Jean-Pierre Bokourou a été arrêté par des gens qui seraient de la garde de Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. Nous n'avons pas reçu d'informations que Kazungu était sur place, mais il se trouvait que Jean-Pierre Bokourou a été emmené à bord de la camionnette qui serait utilisée par Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. Depuis cette arrestation, la famille et les amis n'ont pas pu recevoir les traces de Jean-Pierre Bokourou. On ne savait pas le lieu de sa détention. 10 jours après cette arrestation, un frère de Jean-Pierre Bokourou a reçu une photo. Une photo du cadavre de Jean-Pierre Bokourou, une photo qui montre que Jean-Pierre a été tué de manière extrêmement atroce, horrible. Sur la photo, on voit les bras ligotés derrière le dos. On voit que la gorge a été tranchée. On voit le visage défiguré et du sang aux alentours du cadavre. On n'a pas pu savoir où se trouvait ce cadavre. Et malheureusement, celui qui a envoyé la photo n'a pas donné les circonstances de l'exécution de Jean-Pierre Bokourou. Il a seulement confirmé que le crime venait du service national de renseignement. D'ailleurs, la personne qui a envoyé la photo travaille elle-même au service national de renseignement.
Voilà, c'était donc les éclaircissements de Pacifique Nazwe, coordonnateur de la campagne Ndondeza. 3 personnes décédées, dont un enfant et 4 autres blessés. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit dans l'après-midi de ce vendredi sur la colline Masango de la commune et province Muramvya. Les détails avec Prosper Nzisavira.
D'après les sources policières en province de Muramvya, l'accident a été causé par un minibus qui roulait à grande vitesse, percutant ainsi une moto à bord duquel se trouvaient 3 personnes, 2 hommes et un enfant qui sont morts sur les champs. Les 2 hommes étaient des secrétaires communaux de la Croix-Rouge dans les communes de Rutegama et Kiganda, province de Muramvya. Il n'y a pas 4 jours, pareil accident s'est produit en commune Mubimbi de la province de Bujumbura, sur l'axe Bujumbura-Bugarama, lorsqu'un véhicule de type Ilix a dérapé de son itinéraire et est tombé dans une faille située très loin de la route. 5 personnes qui étaient à bord du dit véhicule, dont le conseiller de l'administrateur de la commune Kayanza chargé du développement, son épouse, leurs petits-enfants, le chauffeur et un militaire ont tous péri. Signalons que ce conseiller de l'administrateur de la commune Kayanza venait d'un hôpital de la mairie de Bujumbura où il était pendant longtemps hospitalisé et il allait continuer le traitement médical à domicile.
Prosper Nzisabira. La décision de l'administrateur de la commune Ruhororo intimant les femmes de rentrer avant 20h viole les lois nationales et les conventions internationales que le Burundi a ratifiées en matière de liberté publique. La constitution burundaise elle-même donne les mêmes chances aux hommes comme aux femmes. C'est la réaction de maître Gustave Niyonzima, avocat et défenseur des droits humains, qui précise que seul le Parlement a le droit de légiférer sur la loi et que les sanctions que l'administrateur promet seront sans référence. Suivez maître Gustave Niyonzima.
La décision de madame l'administrateur communale relève de la malveillance. Elle est trop discriminatoire si l'on s'en tient à la loi nationale et internationale quant à l'égalité de tous les êtres humains. En vertu de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les mêmes avantages, les mêmes chances dans n'importe quel emploi, dans n'importe quelle activité et dans n'importe quelle circonstance. Même au niveau de la loi nationale, au niveau de la Constitution, en vertu de l'article 13, c'est toujours le même argumentaire. Il en est de même pour l'article 15 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, du 3 septembre 1981. Donc on voit que ce que l'administrateur communal a fait est contraire à la loi, mais aussi elle est contraire même aussi à la pratique de l'administration du territoire au niveau des services provinciaux. Également, les sanctions dont parle dans cette décision prise par madame l'administrateur, j'aimerais vous informer que cette décision reflétant ces sanctions, c'est contraire à la Constitution, puisqu'en vertu de l'article 164 alinéa 3, 16e et 13, c'est le Parlement uniquement qui légifère la loi, quitte à être appliqué par les cours de tribunaux burundais. En fait, aussi, l'administrateur communal n'a pas que des mesures d'exécution de la loi portant l'organisation des services provinciaux, des ordonnances ministérielles. Dans le cas présent, la mesure prise par cette dame n'exécute aucune loi. Je dirais, du point de vue de la loi, que même à l'égard de la personne qui serait punie, et ça serait nul et non avenu parce que cette dernière pourra tenter une action en justice contre la décision.
Chers enseignants, soyez des modèles pour vos élèves en ce qui est de la prévention de la COVID-19. Vérifiez et aidez les élèves à appliquer les mesures barrières de prévention. Alertez chaque signe suspecté d'atteinte de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Inzamba.
La suite de ce journal avec le manque d'eau qui s'observe dans la zone Gatumba en province de Bujumbura. La conséquence est la crainte de la population de la propagation des maladies démentielles, surtout chez les enfants. Les habitants sont en train de puiser dans les rivières, une situation que confirme le médecin provincial de Bujumbura, Patrick Mitabaro.
La population de Gatumba s'indigne de cette pénurie d'eau alors qu'elle est située proche du lac Tanganyika. Leurs enfants vivent au quotidien avec des maladies diarrhéiques comme le choléra. Docteur Joël Nibigira, médecin provincial de Bujumbura, confirme le manque cruel d'eau dans cette zone.
Quand la province de Bujumbura est frappée par la dysenterie, le premier cas est détecté soit à Gatumba, soit à Kajaga, à Mutimbuzi. Ceci est dû à la rareté d'eau et au manque de latrine. Ceci est le propre de cette province. C'est un défi de cette zone de Gatumba et généralement dans notre province de Bujumbura. L'eau est vraiment rare.
Docteur Joël Nibigira réclame que la population de Bujumbura soit assistée en eau de robinet et que des toilettes publiques soient également érigées à Gatumba pour la prévention des maladies épidémiques comme la dysenterie.
Je demanderai aux bienfaiteurs où ils se trouvent d'apporter leur assistance dans l'installation de la latrine publique à Gatumba et dans la province de Bujumbura. Et surtout, j'en appelle à la population qui n'a pas encore compris l'intérêt de la latrine, qu'elle soit consciente de son usage. C'est là où nous pouvons lutter contre les maladies des mains sales, y compris au COVID-19.
Son manque d'eau propre s'observe au moment où le Burundi fait face à la pandémie de COVID-19 qui frappe le monde. Le ministère de la Santé recommande strictement à la population de se laver continuellement les mains. Gatumba étant situé à la frontière avec le Congo, où le contrôle des mouvements de la population doit être de rigueur.
168 personnes ayant effectué une enquête en mars dernier pour le compte de l'Institut de statistiques et d'études du Burundi réclament leur dû et ils disent en effet que depuis la fin de leur travail en avril dernier, l'Istebu ne leur a pas versé la dernière tranche de leur paye. Ils exigent donc d'être régularisés. Francine Kanyangé.
L'Istebu avait promis à chacun des enquêteurs une somme de 1 690 000 francs burundais en trois tranches pour une enquête effectuée dans 18 provinces du Burundi en mars dernier, mais il ne leur a donné que deux tranches selon les mêmes enquêteurs. Nous avons essayé de joindre par téléphone la coordinatrice de cette enquête, en même temps directrice du département des études des statistiques démographiques et sociales à l'Istebu, mais elle n'a pas décroché son portable.
Francine Kanyangé, merci. Grogne depuis ce vendredi chez les directeurs des écoles fondamentales et post-fondamentales de la commune de Kayanza. La cause, le directeur communal de l'enseignement, Abel Nazigayo, les oblige à payer une somme allant de 5 000 à 15 000 francs burundais. Cette somme serait destinée au paiement des boissons consommées le jour de la célébration de la journée internationale dédiée à l'enseignant. Ces directeurs qualifient cette mesure de vol car ils disent n'avoir pas consommé ces boissons. Parfait, Mouda Sigana s'est penché sur ce dossier.
Le jour de la célébration par les enseignants de la province Kayanza de la journée internationale leur dédiée, les cérémonies se sont déroulées au lycée Kayanza où les enseignants de toute la commune s'étaient rassemblés pour prendre part à une réunion animée à leur intention par le même directeur communal de l'enseignement. Selon nos sources dans cette province Kayanza, il était prévu qu'au terme de la dite réunion, tout le monde allait se rafraîchir à cet endroit même, moyennant préalablement des cotisations. Des boissons avaient été disponibilisées dans la même place par un commerçant de la ville Kayanza sous la commande d'Abel Nezidiayo, le directeur communal. Mais selon toujours nos informations, à la fin de la réunion, la quasi-totalité des enseignants qui trouvaient qu'il était déjà très tard de prendre un verre ont préféré quitter les lieux à l'exception des enseignants du lycée Kayanza et ceux de l'école fondamentale d'Okiaya. Le commerçant qui avait amené les boissons ayant constaté qu'il n'a pas pu couvrir toutes les dépenses effectuées a demandé au directeur communal de les payer. C'est alors que ce dernier a décidé d'endosser les responsabilités aux différents directeurs des écoles dont les enseignants sont partis sans rien prendre. Selon des informations de certains enseignants, c'est ainsi que depuis ce jeudi, Abel Nezidiayo leur a intimé l'ordre de payer 5 000 francs burundais pour le cas des directeurs des écoles fondamentales, 10 000 francs burundais pour les directeurs des postes fondamentaux et 15 000 francs burundais pour ceux dont les établissements comptent les deux cycles. À cet effet, ces directeurs trouve que le paiement forcé de cet argent est bel et bien un vol organisé par son directeur communal et demande aux responsables hiérarchiques de suivre de près cette situation. La radio Nzamba a essayé de joindre par téléphone Abel Nezidiayo sans succès.
Merci, parfait Mouda Sigana. Cette brève sur la commune Rumongué qui enfin a son nouvel administrateur après tout un mois de difficiles tractations, c'est Jérémy Bizimana qui a été élu ce samedi pour occuper ce poste. En plus des conseillers communaux, des délégués du ministère de l'Intérieur et du gouverneur étaient présents lors du vote. Le choix de l'administrateur avait posé d'énormes problèmes parce que des membres du parti CNDD-FDD spéculaient sur ce poste.
Vu les émissions de la radio Indamba en direct sur le www.indamba.org.
L'impunité qui a toujours caractérisé les crimes commis contre les journalistes au Burundi, c'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Une impunité qui continue jusqu'à nos jours, n'est-ce pas Thierry Birgilindavi qui présentait ce mini-magazine de ce samedi.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idruya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Depuis l'an 2014, la date du 10 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette date a été adoptée par les Nations Unies en 2013, au lendemain de l'assassinat des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon, survenus au Mali le 2 novembre 2013. Selon le rapport de l'année passée de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, au cours des 10 dernières années, en moyenne, un journaliste est tué tous les 4 jours et la quasi-totalité de ces crimes reste impunie. Ces crimes visant les professionnels des médias n'ont pas épargné aussi ceux du Burundi. La justice burundaise aurait-elle pu faire des enquêtes pour démasquer et traduire en justice les auteurs de ces crimes? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 7 novembre 2020. À la présentation de Thierry Birgilindavi, bienvenue. Les journalistes burundais ont été victimes d'assassinats ciblés depuis longtemps. Les agents de l'État étaient soupçonnés à chaque fois d'être impliqués dans ces crimes. Bertrand Gadakulio de la radio Inzamba provient sur certains journalistes tués au Burundi et les circonstances de leur assassinat.
Les toutes premières victimes ont été les journalistes de la radio nationale en 1972. Une équipe de la radio nationale qui se rendait dans le sud du pays en reportage a été exterminée et carcinée dans le véhicule de service. Selon les anciens responsables de la radio nationale, ils ont été tués par les moulinistes qui sévissaient dans les provinces du sud du pays et qui s'en prenaient aux Tutsis. S'en est suivi une répression qui a coûté la vie à plusieurs journalistes autour de la radio nationale. On se rappellera de Damien Kayanda et Joseph Tafauti qui ont été tués par les services du pouvoir de l'époque. La guerre civile de 1993 qui a suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye a également porté des vies des journalistes de la radio-télévision nationale. Parmi ceux-ci, Pamphile Simbizi qui était rédacteur en chef, Alexis Anyatuyaga, Deo Miuro et Edouard Makumanya. Certains tués par les forces de l'ordre, d'autres par des groupes affiliés aux partis politiques. Plus récemment, en 2015, il y a le souvenir encore frais de l'assassinat du journaliste et caméraman à la radio-télévision nationale Christophe Nizabaizi et du massacre de toute sa famille. Les auteurs de ce carnage ont été reconnus comme étant des agents de l'API, appui pour la protection des institutions. L'on ne peut pas oublier la disparition du journaliste Jean Vigilimana du Good Press Iwachu, introuvable depuis plus de 1500 jours. Un agent du Service national des renseignements burundais, considéré comme l'un des principaux suspects dans cette disparition, a par après été aussi kidnappé et jusqu'à aujourd'hui, sa famille est sans nouvelles.
Aucun crime commis contre ces journalistes a été suivi par des enquêtes sérieuses de la justice. Pour Innocent Mouzi, ancien directeur général de la Radio-Télévision Nationale du Burundi, la justice burundaise n'était pas en mesure de traduire en justice les auteurs de ces crimes, étant donné qu'elle était sous le joug de l'exécutif et que les auteurs étaient des agents de l'État.
Bon, en cas de crime contre un journaliste, il y a plusieurs entités, plusieurs personnes qui peuvent porter plainte. Ça peut être sa famille, parce que c'est d'abord un être humain avant d'être un journaliste. ça peut être le médium dans lequel ils travaillent, ça peut être les syndicats des journalistes, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quelle autre organisation qui s'intéresse à la défense de la vie humaine, qui peut dire tel a été assassiné, tel a été tué dans telle circonstance, porter plainte, essayer de suivre le dossier pour que justice lui soit rendue, pour que justice soit rendue à sa famille, pour que ceux qui ont commis ces crimes la payent. Mais dans le cas du Burundi, le problème n'est pas tellement de savoir qui porte plainte, le problème c'est plutôt l'absence d'un État digne de son nom, un État qui protège les citoyens. Alors qui est-ce qui irait porter plainte contre l'État dans un système où la justice n'est pas indépendante? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le gouvernement, le système judiciaire et le Parlement. Il n'y a pas moyen de porter plainte parce que c'est l'État lui-même qui tue.
Journaliste assassiné, les voix des sans-voix.
Pour Erénée Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de la protection des journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes FIJE, c'est la volonté politique des États pour mettre fin à ces crimes.
Il s'agit donc d'une journée et d'une occasion chaque année de rappeler à tous les gouvernements, dont le Burundi bien entendu, qu'ils ont une obligation de protéger les journalistes qui travaillent dans leur pays et de les protéger en mettant en œuvre les sanctions prévues par les lois à la fois domestiques, mais également par le droit international.
Par exemple, au Burundi, comme presque partout dans le monde, ce sont des pouvoirs en place qui sont accusés de commettre ces crimes. Est-ce qu'il est possible de sanctionner ces agents de l'État?
Bien sûr qu'il est possible de sanctionner les agents de l'État, parce que les agents de l'État ne sont pas au-dessus des lois. Et d'ailleurs, raison pour laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette journée, c'est justement parce qu'ils sont conscients du fait que l'obligation principale de faire respecter l'ordre et la loi dans chaque pays incombe au gouvernement. Donc c'est une occasion de leur rappeler leur obligation vis-à-vis de des citoyens, dont les journalistes. Donc c'est tout à fait possible et même désirable de faire en sorte que les agents de l'État qui commettent des actes de violence à l'encontre des journalistes soient également punis et même soient punis de façon exemplaire pour justement éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir.
Les professionnels des médias ont été victimes de violences de toutes sortes au Burundi. En 2015, ces violences ont été généralisées. La famille des journalistes était dans le viseur du gouvernement. Les professionnels des médias ont été considérés comme l'ennemi numéro un du pouvoir et ont été ainsi traités par les forces de l'ordre. Trois radios indépendantes, les plus écoutées au Burundi, et la télévision Renaissance ont été attaquées à l'arme lourde par les agents du pouvoir. Les journalistes qui ont pu échapper ont été contraints à prendre le chemin de l'exil avec leurs familles. La justice burundaise, au lieu de répondre aux cris d'alarme lancés par les organisations des journalistes, elle a plutôt sorti des mandats pour interpeller les responsables de ces médias. C'est par ici que prend fin au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Thierry Biguindavi. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci à Thierry Biguindavi pour cette présentation ainsi qu'à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce mini-magazine Au cœur de la société. C'est le moment de la revue de la presse hebdomadaire. Elle vous est présentée par Jean-Baptiste Biléa.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse présentée par Jean-Baptiste Biléa. Malabo pour la reconnaissance et le soutien, titre le journal Iwachu. Forte d'une vingtaine de personnes, dont cinq ministres, la délégation burundaise conduite par le président Ndayishimiye s'est envolée ce lundi 2 novembre vers Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Une visite d'État de cinq jours en soupçon de reconnaissance selon cet hebdomadaire d'information. À l'occasion du banquet d'État offert en l'honneur du président Ndayishimiye, le numéro 1 burundais a dévoilé ses intentions. Le Burundi et la Guinée équatoriale entretiennent des liens d'amitié qui nous sont particulièrement chers. D'après Ndayishimiye, les deux pays partagent les mêmes valeurs. Le président burundais, comme d'ordinaire, n'a pas manqué de prononcer des éloges au doyen Nguema. le qualifiant de grand frère et de chanter ses qualités personnelles. Cette visite a été sanctionnée par la signature de 4 accords de coopération, dont un accord dans le cadre du domaine maritime, conclut Iwach. Malgré la poursuite de la répression des opposants, le Burundi retrouve sa place à l'OIF. Nous le lisons dans le journal en ligne Burundi Daily Net. Selon ce journal, et bien que le Burundi reste toujours aux yeux de l'ONU et des militants des droits humains un repère gangster, selon les termes de ce journal, qui tue, viole et emprisonne à l'appel les opposants et autres brebis galeuses, le Conseil permanent de la francophonie a en effet décidé de lever toutes les mesures restrictives prises contre le Burundi à la suite de la crise de 2015. En juillet 2016, avait décidé de suspendre temporellement la coopération multilatérale francophone en faveur du Burundi en raison de la crise politique et sécuritaire. Covid-19, une ordonnance de trop, écrit le journal Iwachu. Le ministre des Finances, de la Santé et celui de l'Intérieur ont signé une nouvelle ordonnance réglementant les nouveaux coûts du test de la COVID-19 pour les milieux d'affaires. C'est une décision à revoir pour ne pas enclaver davantage le pays. 100 dollars pour les étrangers, 30 dollars pour les nationaux et la somme que toute personne entrant sur le sol burundais devra s'acquitter pour subir le test de la COVID-19. C'est l'indignation totale dans les milieux d'affaires à la veille de l'ouverture de l'aéroport Melchior Ndadaye. À demi-mot, selon Iwachu, il déplore que la dite ordonnance aille à l'encontre des conclusions de la récente réunion avec les intervenants du secteur aéroportuaire. Le principe était qu'on mette dans bonnes conditions les voyageurs. Bujumbura détenu pour une blague, écrit SOS Média. Divine Kezakimana, âgée de 20 ans, est détenue dans les cachots du commissariat municipal dans la capitale économique Bujumbura depuis mercredi soir. Ce sont les jeunes Simbonerakure qui l'ont appréhendée en compagnie des policiers. La jeune fille a été arrêtée après avoir lancé une blague sur une chaîne YouTube étiquetant les garçons des quartiers nord de Bujumbura d'impolis. Des Imbonerakure natifs de Kamenge se serait plaint que la jeune fille les a rabaissés. Depuis, l'enregistrement a été retiré de la chaîne YouTube. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Pareil à vous, Jean-Baptiste Bileha, et on termine par une pensée pour nos quatre consoeurs et confrères du journal Iwachu, qui totalisent aujourd'hui 383 jours d'incarcération. Ils sont accusés de tentatives impossibles et de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million de francs burundais chacun. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Théodomir Manilambona pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un excellent week-end sur nos ondes. Portez-vous bien.